Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
À 19h16 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde avec notamment l'ancienne patronne du MEDEF. Bonsoir Laurence Parisot.
Bonsoir.
Avec l'éditorialiste du Figaro. Bonsoir Yvan Rioufol.
Bonsoir.
Avec le politologue, directeur du centre d'études et d'analyse Roland Quérol. Bonsoir Roland.
Bonsoir Marco et bonne année à tous.
Et bonne année, j'allais y venir pour faire un bonne année collectif, mais bon.
Mais moi je dis à tous, donc c'est collectif.
C'est collectif, vous avez raison. Bon, on va quand même souhaiter une bonne année quand même aussi à Gérard Miller, tant qu'à faire. Hein. Psychanalyse, bonsoir Gérard.
Merci, bonsoir.
Premier sujet, terrorisme, la justice sur la touche. Le Monde révèle le projet de loi pénale présenté au Conseil d'État après les attentats de novembre. L'objectif affiché, l'état d'urgence et même plus. Sans l'état d'urgence, les préfets pourront ordonner eux-mêmes des fouilles ou assigner à résidence des suspects. Les procureurs seront, eux, habilités à ordonner des perquisitions de nuit. Tout ça donc sans juge. Alors, vous avez entendu tout à l'heure le syndicat de la magistrature s'offusquer. Vous offusquez également, vous dénoncez un état policier. Vous comprenez très bien, à un moment donné, 2016 est après 2015 et plus rien ne sera pareil.
Et après avant 2017.
Merci Roland. Vous les souhaitez une bonne année pour 2017 déjà, peut-être. Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on dénonce un état policier? Benoît Galeret de LCI, bonsoir.
Bonsoir, on s'inquiète en tout cas. En 2016, dites adieu à l'état de droit. Hollande et Valls vous souhaitent la bienvenue dans un état policier, soupire Salim. Hollande perd les pédales. Lâche mes Matilla, ou bien il se prépare contre les effets futurs de la crise du capitalisme, se demande Omar, comme d'autres à l'extrême gauche. Mais Daniel rétorque, tout le monde veut la sécurité, mais certains ne veulent pas que ça empiète sur ce qu'ils appellent ou pensent être leur liberté. Et je parle pas de ceux dont l'idéologie refuse toute autorité. Philippe est d'accord, qui insiste, faut savoir ce qu'on veut et s'en donner les moyens. La première des libertés, c'est de pas se faire canarder à la terrasse d'un café ou dans une salle de concert. Je m'en contrefiche d'être contrôlé 10 fois par jour par les flics, si ça empêche les djihadistes de terroriser en rond. Mais enfin, c'est mieux clair. La police qui peut désormais fouiller les voitures, contrôler l'identité de n'importe qui, sans présomption d'infraction, retenir quelqu'un 4 heures sans avocat, c'est exactement la définition d'état policier. Et alors, répond Issa, je suis pas terroriste, je vends pas de drogue ni d'armes, j'ai la conscience tranquille, je regrette pas d'avoir voté Hollande, dommage qu'il ait fallu 130 morts pour agir. Ben voyons, grince Cassandra, quand on voit comment la police se comporte quand elle a un sentiment d'impunité, c'est pas rassurant du tout. Polo conclut, oui mais si on sait que Salah Abdeslam a échappé aux Belges parce qu'il pouvait pas perquisitionner la nuit, faut bien adapter nos législations. Ensuite, c'est aux parlementaires de faire leur travail de contrôle et d'amendement si nécessaire.
Pourquoi pas? C'est pas mal vu d'une certaine manière. Laurence Parisot, vous craignez que les juges soient court-circuités ou alors vous comprenez très bien ces dispositions peut-être pratiques?
Moi, je dirais d'une manière peut-être simple. Oui, à l'augmentation de certains pouvoirs de police, par exemple, dont le dispositif qui est envisagé. Je crois que la police pourra monter des pièges pour infiltrer les trafics d'armes d'une manière qui n'était pas possible jusqu'à présent. Mmh. Très bien. Donc oui à l'augmentation de ce type de pouvoir pour la police, mais symétriquement, pour moi, non à toute diminution des pouvoirs de justice. C'est très facile, très tentant pour tout pouvoir politique. Face au désarroi que nous ressentons tous dans la situation de grand danger que nous connaissons actuellement, c'est très facile d'aller au-delà, de franchir des lignes rouges. Et c'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas tomber dans cette facilité.
Mais clairement, pour vous, on est tombé dans, enfin, Manuel Valls est tombé dans ces facilités-là. Et quand vous lisez donc, le projet qui est sur le bureau du Conseil d'État, les lignes rouges dont vous parlez sont empiétées.
Je ne connais pas de manière exhaustive ce projet, mais je pense qu'on frôle ces lignes rouges. De même qu'il y a quelques mois, le gouvernement et la majorité a voté un texte sur le renseignement qui donne un pouvoir exorbitant aux services de renseignement pour organiser des surveillances électroniques et de télécommunications sans un contrôle a priori du juge. Restons dans un état de droit, ce qui n'empêcherait pas, tout en restant dans cet état de droit, de donner plus de moyens à la police et au renseignement.
Yvan ?
Oui, bien sûr. Il faut des garde-fous. Personne ne veut dire le contraire, mais il faut être cohérent. On ne peut pas reprocher d'un côté à l'État un manque de vigilance, qui est un peu le procès qui est fait aujourd'hui en relecture des événements qui se sont passés le 7 janvier, et en même temps lui reprocher d'en faire trop. Il faut tout de même rappeler le préalable. Le préalable, c'est que nous sommes en guerre, nous sommes en état de guerre. François Hollande, lors de ses vœux, a parlé d'actes de guerre. Nous sommes en guerre contre un totalitarisme qui se joue de nos droits de l'homme, de nos préventions, de nos délicatesses. Et donc, naturellement, il faut être très vigilant sur le droit, mais on n'est pas obligé d'être naïf, on n'est pas obligé d'être idiot. Et donc, on peut en effet comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une sorte de paix armée.
Mais état de guerre permanent, donc, puisqu'il ne s'agit plus de l'état d'urgence, là, ça serait
oui,
ancré
ça
aujourd'hui. Donc, on est entré dans un état de guerre permanent, ce que vous dites.
Nous sommes
donc
dans une guerre aujourd'hui permanente, on l'a dit, et je pense que c'est vrai, c'est une guerre qui risque de durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Et donc, il faut naturellement qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des discours simplement très consensuels en disant qu'il faut naturellement que tout le monde garde ses libertés, bien entendu. Mais il faut faire aussi le sacrifice d'une partie de certaines libertés, en effet. Parce que ces hommes sont dangereux. Et d'abord, vous dites que la justice est écartée de tout cela. Ce n'est pas vrai. Les procureurs garderont le contrôle.
Oui, mais les procureurs sont nommés directement.
Les procureurs qui vous doivent sauter au plafond en pensant qu'on pourrait admettre en doute leur intégrité. Ce sont malgré tout des magistrats. Ils font partie de la justice. Donc la justice sera là pour contrôler. Et simplement, ce que payent aujourd'hui les juges d'instruction, c'est en effet une défiance qui est dû à des comportements de certains un peu irresponsables, un manque de discernement, un manque de maturité. Et en effet, il y a là le procès qui est fait aujourd'hui de ces juges d'instruction qui ne se sont pas comportés dans des affaires sensibles avec la maturité que l'on aurait pu attendre d'un juge, en tout cas.
Oui, moi, je voudrais commencer par rendre hommage à la Norvège. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des attentats terroristes de Breivik en 2011.
Ça va bien, hein.
Et après ces attentats qui avaient fait le jour même 79 morts, le premier ministre norvégien est venu à la télévision et a annoncé qu'il n'y aurait aucun régime d'exception, aucun changement dans le droit, parce que la démocratie devait se défendre avec les armes de la démocratie. Il avait été d'ailleurs applaudi le lendemain sur tous les bancs de l'arc-en-ciel démocratique norvégien. Je trouve que ça, c'est un exemple qui doit nous faire réfléchir. Oui, Yvan...
Peut-être que les juges norvégiens ne sont pas les juges français.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
C'est une question.
Non, et puis surtout, la vraie question, pardon de vous interrompre, la vraie question, c'est que les armes aujourd'hui des terroristes, ce sont nos droits de l'homme. Il ne faut pas oublier cela.
Je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Eh bien, cela veut dire qu'ils se jouent de nos protections, ils se jouent des garanties que peuvent donner les droits de l'homme. Et donc, on n'est pas obligé de leur offrir sur un plateau tout ce qui leur permet aujourd'hui d'exister dans une démocratie ouverte.
Alors, savez-vous pourquoi le droit a été inventé, cher Yvan Rioufol ? C'est précisément
bien quand vous me donnez
empêcher, mais il serait temps que vous en preniez quelques-unes.
Oui, mais j'aime bien votre ton professoral à chaque fois que je parle.
Mais je suis professeur.
Oui.
Je craignais que le débat ne s'anime pas. Bon, il commence
un peu
à le faire
de temps en temps.
Vous nous dites évidemment qu'il faut prendre garde à ce que les libertés soient maintenues. C'est de ça qu'il s'agit. Le droit doit être là pour protéger aussi l'exercice des libertés publiques et des libertés individuelles. Ce texte est un texte assez grave. Pas surtout, il y a des choses qui peuvent aller, tout ce qui concerne Tracfin, tout ce qui concerne les ventes d'armes. Il y a des choses qui sont tout à fait acceptables dans ce texte. Mais faire en sorte que des gens qui sont soupçonnés d'avoir l'intention de commettre des actes soient assignés à résidence, soient perquisitionnés, soient ensuite maintenus pendant une durée de plusieurs mois dans la nécessité d'aller pointer 8 heures sur 24 dans différents endroits, ça n'est plus le respect des libertés individuelles. Le droit, c'est précisément qu'on est condamné pour ce qu'on a fait, pas parce qu'on est soupçonné d'avoir l'intention éventuelle de faire quelque chose. Et vous savez, le droit, c'est pour protéger tout le monde. Ça veut dire qu'on peut toujours dire « Attention, c'est de terrorisme ce qu'il s'agit ». Non, il s'agit de gens qui sont éventuellement soupçonnés d'avoir des intentions.
Non, mais
écoutez, c'est très grave.
Nous sommes dans un état de guerre. Vous ne pouvez pas raisonner dans un état de guerre.
Nous ne sommes pas dans un état de guerre.
Vous n'êtes pas dans un état de guerre.
Je pense que c'est là la différence fondamentale entre nous. Personnellement, je ne considère pas que nous sommes sur le territoire national en guerre. Nous sommes certainement en guerre.
Dites-le à Manuel Valls.
Nous sommes certainement en guerre en Syrie, en Irak, ça ne fait aucun doute. Mais ici, en France, nous ne sommes pas en guerre.
Eh bien, je soutiens que nous sommes aussi en guerre en France.
En tout cas, peu dans l'état d'urgence, on peut considérer éventuellement qu'on l'est, mais ensuite, peut-être plus, puisque c'est là, il s'agit d'un texte qui vient après l'état d'urgence. C'est ça qu'il faut.
Nous sommes en danger.
Nous sommes menacés, mais nous ne sommes pas en guerre. Et je crois qu'il faut faire quand même des différences, utiliser les mots pour leur sens. Il y a quelques personnes sur les territoires français qui sont dangereux ou quelques personnes qui viennent de pays voisins qui sont dangereux, mais nous ne sommes pas ni dans une guerre civile, ni dans une guerre entre États.
Alors, Gérard Miller, est-ce qu'on peut quand même être sensible au fait qu'un des objectifs des terroristes, objectif conscient ou inconscient, c'est pas comment ils raisonnent, qu'un des objectifs, c'est de détruire notre façon de vivre. Dans notre façon de vivre, il y a la démocratie, il y a la liberté, il y a un certain nombre de choses qui, précisément, qu'ils aimeraient nous voir abandonner. Bah oui. Donc, c'est tout à fait important de comprendre qu'il faut pas crier au loup n'importe quand. Moi, la vidéosurveillance m'a jamais posé des problèmes massifs à partir du moment où on savait que les images n'étaient pas conservées éternellement. L'ADN qu'on prélève sur les criminels m'a jamais posé de problème. Là, par exemple, je lis dans ce projet qu'il y aurait quand même une certaine facilité donnée à la police de tirer. On sait qu'il y a des pays qui sont par ailleurs démocratiques, comme on dit, comme les États-Unis, où la police a la gâchette un petit peu facile, notamment sur les Noirs et notamment éventuellement sur certaines personnes jugées comme délinquantes. Donc, quand on facilite la détente policière, si j'ose dire, en matière de balles, ça me fait peur, c'est vrai. Et donc, je pense à la fois que ce que dit Ruffol est exact, c'est-à-dire que la situation a changé, qu'il ne faut pas être naïf, et qu'en même temps, je pense qu'il pourrait y avoir une mesure assez simple, c'est que si la police doit intervenir rapidement et qu'on ne se retrouve pas devant des impossibilités d'intervention parce que le juge n'est pas là, il faut qu'ensuite la justice, le juge, puisse vérifier qu'on n'a pas agi à tort et à travers. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on donne des pouvoirs à la police sans contrôle a posteriori, même
Il faudrait rajouter le contrôle a posteriori pour vous dire.
Il y a un grand non-dit dans cette affaire. Le grand non-dit, c'est qu'on annonce des mesures de l'ordre pénal. Tout simplement pour compenser l'absence de moyens financiers. Quand je pense par exemple au fait que l'un des terroristes du 13 novembre a été contrôlé au petit matin à la frontière, mais que les personnes présentes n'avaient pas l'information. Pourquoi les personnes n'avaient pas l'information ? Parce qu'on n'a pas mis les moyens en place pour faire en sorte que le circuit d'information...
Oui, c'est un tout, bien sûr.
Mais, c'est de ça dont on a d'abord besoin.
De tout cela.
Donc ça viendrait compenser un manque de façon un peu artificielle.
Parce qu'on n'a pas les budgets nécessaires, parce que notre pays s'est appauvri ces dernières années.
Tout ce que vous dites est vrai également. Mais simplement, il faut se mettre quand même en face des réalités. Et je crains qu'il ne faille encore vous mettre face à ce qui risque de se passer, c'est-à-dire que non seulement nous avons eu un premier attentat, il y a un deuxième avec des morts qui s'accumulent, et on ne veut toujours pas voir, pour reprendre votre expression, que la France n'est pas en guerre. Eh bien si, il y a une partie des Français qui nous ont déclaré la guerre. Ce n'est pas encore une guerre civile, parce que les autres Français ne ripostent pas, mais vous avez une situation de guerre. Et dans cette situation de guerre, encore une fois, au risque de me répéter, vous ne pouvez pas raisonner comme s'il se passait simplement des petits événements sociaux. Ce ne sont pas des événements sociaux.
Une partie de Français quand c'est pour l'instant, et c'est énorme, quelques dizaines, peut-être quelques centaines, mais enfin, en tout cas, c'est pas une partie des Français.
Enfin, écoutez, au moment d'action directe, par exemple, on n'utilisait pas le terme de guerre. Et pourtant, vous aviez des Français qui voulaient tuer des personnes, en l'occurrence qui en ont tué, dont un grand chef d'entreprise, mais on n'était pas dans une même logique.
Que ceci est maintenant théorisé. Il suffit de lire les textes qui les animent, dans le fond.
Mais enfin, c'est pas la peine de faire la guerre. C'était théorisé aussi du temps d'action directe.
Cette guerre que l'on fait en Syrie est une manière
personne
un peu détournée.
Personne n'aurait parlé de guerre à ce moment-là.
Une manière un peu détournée de ne pas montrer ce qui se passe aujourd'hui dans certaines cités. Et c'est bien là où est le problème. Cela se passe pas simplement à Raqqa, mais également dans une partie de Seine-Saint-Denis, par exemple. Et donc, il ne faut pas s'aveugler en disant qu'il ne se passe rien en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, dans d'autres cités dites sensibles. Et donc, c'est cet effort de lucidité que nous devons aujourd'hui avoir.
Allez, on change de sujet dans un instant, si vous voulez bien. Rien à voir, de l'économie, mais qui concerne beaucoup les consommateurs, puisque Bouygues Télécom s'apprête à être croqué par Orange. En tout cas, les négociations sont en cours. On en débat dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
On refait le monde ce soir à 19h31 sur RTL avec Gérard Miller, Roland Quayrol, Yvan Ruffol et Laurence Parisot. Le rapprochement Orange Bouygues Télécom sera dans l'intérêt du consommateur et dans l'intérêt du pays. Vous avez entendu tout à l'heure en exclusivité sur RTL Stéphane Richard, le patron d'Orange, donner quelques détails concernant ces négociations. Si les deux groupes fusionnent, ils posséderont 60% du marché mobile. L'UFC Que Choisir réclame déjà des mesures pour maintenir la concurrence. Stéphane Richard assure qu'il n'y aura pas de casse sociale, que les prix n'augmenteront pas. Vous dites oui à ce mariage sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Pas forcément une bonne nouvelle pour nos futures factures, tweet Xavier, c'est ce qui revient le plus souvent dans les commentaires. Je me souviens plus qui a dit 4 acteurs sur un marché, concurrence favorisée, 3 acteurs sur un marché, entente favorisée, alors no comment, renchérit Scano. SDSL leur répond que la France est championne d'Europe des prix télécom bas et depuis très longtemps, ces marges très réduites pour les opérateurs ne sont pas tenables indéfiniment, il est logique que le marché se concentre. Mais d'autres comme Charles redoutent surtout ce que ça va donner niveau perte d'emploi, les boutiques en doublon, etc. Pas un seul licenciement n'aura lieu d'ici le 8 mai 2017. Trop sensible, lui répond Maurice. Après, Mimi regrette que l'ouverture à la concurrence d'un secteur public se transforme petit à petit en une fusion monopolistique privée. D'autres encore soupçonnent l'État actionnaire d'Orange de vouloir augmenter son pouvoir d'influence sur l'information en approchant Bouygues, donc TF1. Une fois l'information maîtrisée, il est plus facile de garder le pouvoir avec les simples citoyens. Nico enfin raille un accord de confidentialité annoncé dans un communiqué de presse. Je pense qu'on a gagné notre lol du mois, écrit-il, c'est une obligation légale dès lors que ça implique des entités cotées, lui rappelle Alec pour finir.
Que vous connaissez bien tout ça, ces dossiers-là, Laurence Parisot, vous saluez ce rapprochement potentiel, hein, puisque tout à l'heure Stéphane Richard nous disait que rien n'est fait et qu'il y a plein d'obstacles et qu'ils allaient peut-être trébucher, mais en tout cas, il confirme que ça y est, les négociations en cours.
Oui, j'ai l'impression que c'est bien parti. Alors, je pense que c'était indispensable. Tout économiste qui regardait les chiffres de ces différentes entreprises pouvait dire qu'à terme, il n'était pas tenable que sur le seul territoire national, il y ait 4 opérateurs en concurrence. Xavier Niel, avec l'arrivée de Free, a bousculé beaucoup de choses et a provoqué cette baisse des prix dont vous parliez. Mais en même temps, ces faibles marges dont l'un des internautes parlait risque à terme d'empêcher les investissements nécessaires pour que ces entreprises restent dans le coup et un niveau d'infrastructure à la hauteur de notre pays. Or, les télécommunications sont les infrastructures du 21e siècle. Si on veut être pointu en France et permettre le développement de toutes les entreprises, notamment les start-up liées à l'Internet des objets, par exemple, et aux télécommunications d'une manière générale, on a besoin d'un groupe puissant.
Et donc la décision de Nicolas Sarkozy d'avoir offert une 4e licence téléphonique, en l'occurrence à Xavier Niel, ça a fait du bien aux consommateurs, pas forcément à l'économie.
En tout cas, moi je me souviens qu'à l'époque, j'avais demandé à Bercy notamment, si une étude d'impact préalable avait été faite. Et j'avais été stupéfaite de constater que rien de sérieux n'avait été estimé. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Martin Bouygues en avait conclu que vraiment tout ceci relevait de la politique et non pas de l'économie.
Moi, je pense qu'il faudrait d'ailleurs un seul grand opérateur de téléphonie, un seul grand constructeur automobile, une seule grande banque. Ça a été tenté dans certains pays qui n'avaient pas spécialement, Laurence Parisot, votre sympathie. Moi, je trouve formidable, je ne sais pas s'il en faut 3, 4 ou 10, je suis incapable de l'exprimer, mais je trouve formidable que dans ce monde libéral, chaque fois que ça se concentre, c'est-à-dire quand même chaque fois que la concurrence en prend un coup, on nous explique que c'est indispensable. Moi, je croyais que le libéralisme se caractérisait par la libre concurrence. Je vois ça au niveau des grands magasins, je vois ça au niveau de tous les grands secteurs. On nous explique que pour être vraiment efficace, il faut être très peu.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde économique, vous ne pouvez pas le regarder au niveau de notre seul pays. Et si nous voulons un acteur télécom costaud, européen, capable de rivaliser avec les grands Américains ou les grands Chinois, parce que la vraie arrivée, c'est celle de Huawei en Europe, nous devons permettre à un grand d'agir. D'accord.
Alors explique-moi pourquoi il a fallu que Niel et Free arrivent pour que les prix baissent. Pourquoi est-ce qu'il a fallu un concurrent de plus ?
Mais il y a dans l'économie, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est jamais statique. Il y a des phases, qui provoquent le mouvement. Il fallait une phase de grande concurrence. Niel, avec une audace incroyable et un talent qu'il faut vraiment saluer, a permis cette concurrence. Là, on est à une autre phase, un autre stade, et il faut pouvoir investir. Et je crois qu'aucun des grands Français actuellement, ni Free, ni SFR, ni Bouygues isolément, et peut-être même pas Orange isolément, ne sont en mesure d'investir suffisamment.
Oui.
Roland Quérol.
Moi, c'est les affaires normales du capitalisme, et il n'y a pas beaucoup de polémique à faire. Ce n'est pas là l'État régalien qui est concerné, ce sont des stratégies de groupe.
Et en même temps, un peu quand même, puisque c'est l'État qui régule.
Qui donc va d'ailleurs perdre un peu d'action au passage.
Le vrai régulateur dans le monde des télécoms est une autorité indépendante qui s'appelle l'ARCEP. Mmh. Et l'autre régulateur qui va intervenir, c'est l'autorité de la concurrence, voilà. Probablement l'autorité de la concurrence nationale, mais certainement aussi l'autorité de la concurrence européenne. Mmh.
Alors, l'autorité de la concurrence va sûrement obliger les deux réseaux à vendre un certain nombre de leurs acquis.
J'entendais, notamment à Free.
J'entendais sur les internautes disaient que l'avenir des boutiques, il est clair qu'il n'y aura pas, il n'y a pas de rationalité économique à maintenir ces deux réseaux de boutiques côte à côte et que l'un des deux sera vendu, peut-être d'ailleurs à Free. Donc voilà, tout ça est assez logique dans une démarche capitalistique et je n'en connais pas d'autres dans notre économie. Le problème, c'est de savoir si c'est aussi bon que ce que tout le monde nous dit pour les consommateurs. Et que moi, je veux bien que les marges soient serrées. Il y a des gens qui sont arrivés à montrer qu'avec des marges aussi serrées, on arrivait à faire des prix plus bas. Et ma crainte, là, je rejoins Gérard, ma crainte, c'est que moins de concurrence, ça soit finalement le consommateur qui
mais trinque. Sauf que, là, je comprends Roland Carole, mais est-ce que finalement le seul critère ne doit pas être simplement le prix? Peut-être qu'il faut accepter de payer plus cher pour avoir un service concurrentiel et pour, voilà, est-ce que le critère alors, du prix ne doit pas être le critère absolu?
Moi je ne parle pas ici au nom des consommateurs, mais c'est à eux qu'il faut démontrer ça. C'est à eux qu'il faut prouver que si jamais il y a un glissement des prix, ça sera pour avoir un meilleur service, un service plus efficace et des entreprises assurant mieux leur service.
C'est en tout cas ce que dit Stéphane Richard.
Mais ça s'appelle une promesse. Mmh. Le problème est de tenir ses promesses.
Yvan Rifol. Oui, c'est l'ambiguïté de tout ce raisonnement libéral qui est de dire, en écoutant Mme Parizeau, qu'en effet, il faut promouvoir une stratégie industrielle qu'on peut très bien comprendre. Mais qu'en même temps, on s'assoit sur les grands principes qui me sont chers d'une concurrence libre et non faussée. Et donc, je vais reprendre ce qui a été dit, mais très rapidement, parce que ce sont les mêmes arguments. Moi, je me mets à la place du consommateur et je crains, en effet, qu'avec cette formation de petit cartel, en tout cas d'un rapprochement, il risque d'y avoir une concurrence faussée et qu'il risque d'y avoir au bout du compte pour les consommateurs.
Il reste quand même trois opérateurs.
Il en reste trois, mais on comprend quand même bien, même sans être un grand économiste, que s'il n'en reste que trois, il en manquera un qui pourra peut-être, qui pouvait peut-être inciter à faire baisser les prix. Et donc je pense que l'intérêt du consommateur est toujours d'en avoir beaucoup plus que moi.
Non, mais là on est à
front renversé. C'est même très drôle.
C'est assez étonnant. Mais alors d'abord, pour assumer pleinement mon libéralisme, je voudrais dire que dans l'opération telle qu'elle est décrite, moi, je ne suis pas mécontente que la part de l'État dans le capital de France Télécom, enfin Orange, baisse et qu'il y ait un grand investisseur privé, en l'occurrence Bouygues, qui devient le deuxième actionnaire de cette entité. Je trouve ça assez intéressant.
Mais on peut même se demander qu'est-ce que l'État a à faire là-dedans.
Merci Roland, merci beaucoup de le signaler comme ça.
C'est vrai.
Mais surtout, il faut comprendre que peut-être que vous avez raison, Yvan, dans un premier temps, je ne pense pas qu'on aille vers une nouvelle baisse des forfaits téléphoniques. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas particulièrement intéressant pour les consommateurs. Ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, il faut que tout le monde comprenne que la maintenance et même le développement et l'amélioration d'un service passent par des investissements. Mmh. Et des entreprises qui sont aussi serrées sur leurs marges cessent d'investir. C'est ça l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est reprendre les investissements.
Allez, autre sujet, mais on va parler encore de gros sous. Au Royaume-Uni, un patron gagne en deux jours autant qu'un salarié en un an.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
Et on refait le monde à 19h42 avec Gérard Miller, Roland Quayrol, Yvan Rifol et Laurence Parizeau. Happy New Year pour les grands patrons de la City. Une étude d'un groupe de réflexion révèle que les PDG britanniques ont engrangé encore hier et ce soir les deux premiers jours travaillés de l'année. Donc autant de revenus qu'un salarié sur tout 2016. Pourtant, depuis le début de la crise, les actionnaires ont la possibilité de s'opposer à la rémunération de leurs grands patrons. Alors cet écart incroyable vous choque-t-il? Vous semble-t-il normal? Gérard Miller.
Merci de ne pas commencer par moi.
Ce que je trouve toujours formidable quand on parle de grands patrons, c'est que c'est les mêmes qui nous expliquent depuis des années que quand on travaille, il faut prendre des risques, il faut être prêt à déménager, qu'il faut être prêt à changer, etc. Et eux-mêmes se protègent de mille façons possibles avec leur parachute dorée, avec des salaires invraisemblables. Moi, j'aimerais bien que les patrons un tout petit peu appliquent ce principe des risques et de l'audace au travail qu'ils demandent aux salariés de s'appliquer à eux-mêmes. Moi, je trouve ces sommes invraisemblables, mais surtout,
je le dis sous le contrôle de Laurence Parisot, qui les connaît infiniment mieux que moi, je considère
les patrons ou les sommes hein.
Les patrons, que la quasi-totalité des grands patrons quand même se révèlent plus souvent incapables que capables. Si cette société va si mal, vous pouvez toujours attaquer l'État ou attaquer les salariés. On pourrait de temps en temps considérer que c'est aussi parce que les patrons ne font pas leur travail. Je parle des grands patrons, pas des petits patrons. C'est parce que les grands patrons ne font pas leur travail que la société est à ce point au bord du gouffre.
J'ai bien fait commencer par vous, Gérard Miller. Oui, mais... Et pas par vous, Laurence Parisot, ça vous permet de répondre.
Écoutez, Gérard, moi je suis très choquée aussi par certaines rémunérations. En revanche, je ne souscrirais pas du tout à cette idée que la plupart des grands patrons font mal leur travail. C'est même franchement tout à fait le contraire. Ce qui ne va pas, et ce que révèle cette statistique anglaise que je découvre, ils appellent ça les fat cats, les gros chats bien gras, ces patrons en Angleterre. Mais ce qui ne va pas, c'est effectivement l'ampleur des écarts. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à tout le monde, pas simplement occidental, parce qu'en Chine, vous avez quelque chose de tout à fait comparable, en Inde aussi, au Brésil, donc ça touche... Pardon ?
Ou en Russie ?
Ou en Russie, n'en parlons pas. C'est absolument fou. Alors, qu'est-ce que nous avons, pour certains d'entre nous, pas trop essayé de faire ? C'est d'accentuer, premièrement, la transparence, et d'ailleurs, c'est un vrai problème, parce qu'autant, du coup, vous connaissez, cher Gérard Miller, le salaire de ces grands patrons, je ne connais pas les honoraires des psychanalystes.
Vous connaissez le montant du SMIC, par exemple, et qui n'a pas été revalorisé depuis très longtemps.
Écoutez, vous savez, si on parle de la rémunération des psychanalystes, il y a plusieurs problèmes, quand même, y compris la façon dont un psychanalyste, en général, demande à être payé. Mais je vous dis
non,
ça parce que vous avez un petit peu attaqué les patrons.
Moi, je
vous
paye en chèque, si vous voulez me voir.
Non, mais il faut que je vienne vous voir, parce que moi, je paye en liquide. Non, ça me fait plaisir, Laurence, de vous entendre.
Je vais vous dire une chose que vous apprendrez peut-être ce soir, c'est que les psychanalystes, en tout cas ceux qui se réclament de la même école que moi, ne prennent pas la même somme d'argent à quelqu'un comme vous qui gagnait très bien votre vie, à quelqu'un qui est chômeur ou qui est simplement salarié.
On ne va pas faire un débat sur les psychanalystes, si vous voulez bien, on va revenir à l'écart entre les grands patrons.
Bonne nouvelle. Mais donc, premièrement, on a voulu la transparence pour cette profession, si je puis dire, celle des patrons, alors que la plupart des autres professions dans le monde n'ont pas accepté cette transparence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui n'a pas encore produit les effets escomptés, mais peut-être qu'il faut un peu plus de temps. On a voulu, en Angleterre comme en France, et en France je suis à l'origine de cette idée, donner plus de pouvoir aux actionnaires pour sanctionner les rémunérations. Et moi, ce que je demande aux actionnaires, c'est aller aux assemblées générales et engagez-vous au moment du vote de la résolution liée aux rémunérations. C'est là que les choses doivent se jouer.
Roland Carroll, vous êtes choqué, vous ?
Oui, oui, bien sûr. Qui ne serait pas choqué par des écarts payés ? Pareil, d'autant que je suis choqué aussi par une autre chose. Je suis en politique contre le cumul des mandats. Je le suis aussi pour les fonctions dirigeantes des grandes entreprises. Je ne comprends pas pourquoi, en France, on peut multiplier les conseils d'administration. On peut être à la tête d'un comité qui fixe la rémunération d'un patron alors qu'on dirige une autre entreprise et qu'on a des relations d'affaires entre soi. Je pense qu'il y a dans l'organisation même du patronat français quelque chose de scandaleux et d'archaïque. Moi, j'avais
Laurence n'est pas d'accord, manifestement.
Ça n'a fait que s'aggraver sur ce dont nous parlons. Ça n'a fait que s'aggraver au fil des années. Je me souviens quand Laurence avait proposé un code de bonne conduite, ce qui me paraissait bien, parce que moi, je ne suis pas pour l'intervention autoritaire de l'État en la matière. Il s'agit d'entreprises privées. Je ne vois pas au nom de quoi l'État pourrait faire la loi. En revanche, ces codes de bonne conduite ne sont pas mis en œuvre, ne sont pas respectés. Le glissement
alors là-dessus, avant d'entendre Yvan, parce qu'il reste un sujet.
Mais non, c'est archi fou. Mais non, Roland, il y a des glissements. Et à chaque fois... Ben oui. Mais c'est comme un code de bonne conduite, c'est un code de la route. Il y a le code, et il faut simplement...
Le code de la route, il est sanctionné quand il y a des...
Eh bien, justement, et ça, c'est la dernière chose que j'ai là aussi créée, c'est une haute autorité pour dire non quand quelque chose dépasse.
Nous attendons son rapport d'activité avec impatience, écoutez, parce que visiblement, ça continue.
À la fin de l'année dernière, vous avez eu un exemple avec le patron d'Alcatel qui allait partir avec une certaine somme.
Le patron qui n'avait pas réussi, par parenthèse. On parle
de Michel Combes, c'est ça?
Je pense, tout à fait. Mmh. Je pense que c'est sévère de dire ça, parce qu'il a trouvé une sortie de secours à un groupe qui était en difficulté depuis 20 ans. Mais...
Oh bah oui, quelle sortie!
Oui, peut-être.
On va pas débattre de Michel Combes, si vous voulez bien.
Ni d'Alcatel et de Nokia, mais bon. Et la haute autorité qui est en charge de l'application du code AFEP-MEDEF a dit stop, clairement stop, à Michel Combes.
Allez, Yvan Ruffol, allez-y, puis après on changera de sujet.
Ben, moi, j'aimerais bien que l'économie française se porte aussi bien que l'économie britannique. J'aimerais bien que les patrons français puissent avoir des rémunérations telles que celle des patrons britanniques. Naturellement, pour notre mentalité très égalitariste, ceci est parfaitement insupportable à comprendre. Mais j'attends de voir comment les Anglais réagissent, eux, à ces...
Et qu'il y a autant de pauvres qu'en Angleterre. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup plus de pauvres en Angleterre, alors qu'il y a 5% de chômage.
Il y a beaucoup moins de chômeurs.
Parce qu'il y a des travailleurs pauvres.
Ils ont la structure de société anglaise n'est pas la nôtre. Donc, je ne me permets pas de juger de ce que font les Anglais. J'observe
ce que vous venez de faire.
Non, je ne me permets pas. Je dis qu'on juge par rapport à nos propres critères. Je ne veux pas juger de ce qu'ils font. Et j'attendrai que ce soit les Anglais eux-mêmes qui nous disent comment ils vivent ces inégalités-là. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas les entendre.
Il faut rajouter une chose. Un travailleur pauvre n'est pas pauvre éternellement. Le petit job à l'anglaise, c'est un job pour mettre le pied à l'étrier, pour avoir une possibilité de rebondir.
Je dis que on essaie de donner en contre-exemple ce modèle britannique. Il me semble plutôt que c'est un exemple à suivre.
Bien sûr.
Allez, dernier sujet dans un instant, la rentrée offensive d'Alain Juppé.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
On refait le monde donc avec Gérard Miller, Laurence Parisot, Yvan Ruffol et Roland Quérol. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous connaissez l'adage, Alain Juppé lui court toujours. Il accélère en début d'année dans son viseur la primaire de la droite et l'Élysée. Pour y parvenir, il multiplie les propositions. Pour lui, la priorité, imposer la retraite à 65 ans. Demain sortira son livre pour un État fort dans lequel il affiche une sévérité sur les questions de sécurité. Pour vous, Alain Juppé peut-il tenir la distance sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Pour caricaturer, à droite, on le traite de gauchiste, à gauche, de vieux autoritaires. On a encore du mal à le placer sur l'échiquier. Mesdames et messieurs, c'est officiel. Alain Juppé est une vraie girouette, ainsi qu'un opportuniste. Avec le Jade, en écoutant ses sorties sur la déchéance de nationalité, il était à gauche pour se démarquer de Sarko. Maintenant, Juppé est de droite, parce que la première étape est la primaire à droite. Puis il fera une campagne beaucoup plus à gauche, explique Gilles. D'autres taxes sont passées, comme André, qui avoue que son honnêteté politique me laisse un doute. Repris de justice, il s'incruste en Oh, c'est pas un vrai repris de justice, le défend Thierry, c'était qu'un fusible de Chirac. Oui, mais, moi, il me semble qu'il est le plus capable à droite, répond Dominique. Oui, mais il arrivera grillé et usé à la primaire. Il est en campagne depuis 2 ans, redoute Josette. Alain Juppé, c'est le futur Balladur, consensuel a priori, mais avec des propositions et une personnalité qui s'avéreront trop clivantes, pense Bernard. Pour l'instant, il représente juste le Nini, le troisième homme, comme avait pu le faire Bayrou, assure Caro. Enfin, Eugénie, pour finir, raille la schizophrénie des Français, qui souhaite un renouvellement de la classe politique, mais plébiscite la candidature d'Alain Juppé en 2017.
Le politologue Roland Quérol, comment il voit donc la campagne d'Alain Juppé qui s'accélère ?
Écoutez, pour ce qui est de sa campagne, elle va visiblement bien, puisque les sondages continuent à le faire naviguer au-dessus de tout le monde. Il y a des gens du centre ou de la gauche qui attendent Alain Juppé comme si c'était le sauveur. Et ils sont très embêtés quand ils redécouvrent qu'Alain Juppé est un homme de droite. voilà, c'est la réalité. Sa carrière,
ça, c'est pour vous,
lui,
Gérard Miller.
De position
je
toujours.
Sais, moi, je le sais.
Alain Juppé est un homme de droite. Cela dit, ce qu'il dit sur la sécurité, là, c'est pas plus à droite que ce que dit Manuel Valls. Hein. Donc, dans un moment où 80% des Français sont
d'accord pour serrer la vis. Sauf qu'il paraît que Nicolas Sarkozy dit que ça ressemble plutôt à Marine Le Pen. Il ne le compare pas à Manuel Valls, mais à Marine Le Pen.
Voilà,
plutôt.
Mais vous voyez, ils peuvent se renvoyer la balle. Ils sont tous les trois sur une position tellement ultra-sécuritaire qui correspond tellement à la tétanisation de l'opinion française que là-dessus, ils peuvent en rajouter les uns les autres. Ça n'est plus un critère de gauche ou droite. Quant à la retraite à 65 ans, qu'on vient de nous citer, écoutez, la retraite complémentaire, c'est déjà 63, ça sera 65 bientôt.
Marine Le Pen, elle, c'est 60 ans.
Quel que soit celui qui soit élu, ça sera bientôt 65 ans.
Sauf que donc Marine Le Pen, elle, là-dessus, il se démarque d'elle, puisque c'est plutôt 60 ans que 65 ans, la retraite.
Il paraît qu'elle est en train de remettre en chantier aussi cette partie de son programme.
Laurence Parisot, le meilleur d'entre nous.
Ce qui me frappe, c'est que, d'une certaine façon, Alain Juppé fait du Nicolas Sarkozy parce qu'il tient à organiser l'agenda. il a d'emblée, dès cette rentrée, cette nouvelle année, occupé le terrain médiatique. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on se dise, tiens, il est plutôt à gauche là-dessus, ou là, il est plutôt à droite, c'est autour de lui que s'organise le débat. Mmh. De ce point de vue, c'est assez réussi, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que ça va être une vraie campagne électorale, ce qui veut dire que les électeurs de droite vont comparer au fur et à mesure que la campagne va se dérouler. On ne va pas regarder Alain Juppé en tant que tel, comme on est en train de le faire aujourd'hui. On va regarder Alain Juppé par rapport à Bruno Le Maire, par rapport à François Fillon, par rapport à Nicolas Sarkozy. Donc les choses seront très relatives à la fin.
Gérard Miller.
J'en tire pas des conclusions statistiques, mais j'ai rencontré plusieurs amis, on va dire, de gauche, qui me disent, avec un grand sourire, qu'ils vont voter aux primaires de la droite pour que Juppé arrive en tête. Au point que, vous l'avez peut-être vu dans le Libération d'aujourd'hui, Geoffrin, qui est un fin connaisseur de la gauche et de la droite, fait tout un article sur le thème « Regardez ce que dit Juppé, il est vraiment de droite ». Ce qui est amusant, c'est qu'il liste toute une série de mesures...
De la bonne droite.
Voilà, de la bonne droite.
Juste un mot pour dire qu'on connaît tous autant d'amis de gauche qui vont voter Sarkozy pour être sûr d'avoir le pire contre soi et de pouvoir gagner.
C'est vrai. Moi, j'en connais plus, c'est comme ça, hein, si je me permets.
Moi, je ne connais que des naïfs. Ce qui est formidable, d'ailleurs, dans la de Geoffrin, c'est intéressant, c'est que toutes les mesures qu'il énumère comme étant des mesures de droite, il doit reconnaître lui-même que vraisemblablement Valls pourrait un jour ou l'autre les prendre. Donc on est quand même dans une situation où on ne sait plus très bien ce que c'est qu'un programme de gauche classique. Moi je sais ce que c'est qu'un vrai programme de gauche, il se situe à l'extrême gauche, mais un programme de gauche socialiste aujourd'hui, ça ressemble fortement à un programme de droite. Moi je crois qu'il ne faut pas comparer du tout Juppé à Bayrou. Je crois que s'il faut le comparer, le plus vraisemblablement, c'est à Raymond Barre, qui, je vous le rappelle, était donné gagnant en son temps, et effectivement à Balladur, qui était donné gagnant, mais à 100%, il faut s'en rappeler. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça va donner au final? Je n'en sais rien, pour l'instant,
ça va donner Fillon, alors.
Je vous rappelle qu'il y a aussi Copé, hein, qui pourrait rentrer dans la danse.
Ah, ça va tout changer.
Ah, bah, ouais. En tout cas, peut-être que l'Espertine, on verra ça.
Il maquille, pour l'instant, assez bien, de mon point de vue, ses faiblesses dans son jeu. C'est-à-dire qu'il a de bonnes cartes, mais il en a de mauvaises. Ses bonnes cartes, c'est ce qu'il laisse voir aujourd'hui, c'est-à-dire... Sa modestie, son apparence.
En général, on joue avec ses bonnes cartes.
Son apparente sincérité, oui, bien sûr, et ça marche. Et donc, il fait apparaître en mettant en scène sa manière reposante qu'il a d'exposer son programme. Il met en creux la manière un peu angoissante qu'a pour exposer son programme Nicolas Sarkozy. Donc on voit qu'il joue un petit peu sur ce côté-là, qui est un côté facile, qui marche d'une manière en communication. Mais les mauvaises cartes, il en a quand même beaucoup plus. D'abord, il se présente comme étant un peu un homme neuf et nouveau. C'est vraiment un homme du système. Je ne vais pas faire un dessin pour le rappeler. Il est donc co-responsable des successives crises que nous avons à résoudre. Et de mon point de vue, c'est un homme sans conviction. C'est quand même ça reste malgré tout, dans la vision que j'en ai, un centriste, c'est-à-dire quand même assis entre deux chaises, et qui risque, en se droitisant, d'abord d'effrayer la gauche, ce qui va être fait, peut-être d'effrayer le centre, sans convaincre pour autant la droite. Et donc, je crains qu'il ne puisse arriver là, dans une sorte de trou noir, où il n'aura plus vraiment de son utilité. Je peux me tromper, mais je vois par exemple, sur la manière qu'il a de sous-estimer la crise civilisationnelle et de dire que l'assimilation n'est pas une notion défendable, je crois qu'il fait là une erreur fondamentale qui pèsera dans le débat.
Merci à tous les quatre, merci à Laurence Parisot, merci à Yvan Youfol, merci à Gérard Miller et à Roland Kayrol.